chemin de traverse.
Bonjour à tous, je suis Luc Alcazo et bienvenue dans Chemin de traverse. Dans cette émission, nous invitons des associations, des chercheurs ou des personnes comme vous et moi, mais qui proposent des alternatives au statu quo de la société. Ils nous emmènent avec eux dans leur chemin de traverse pour penser autrement le monde dans lequel on vit. Pour ce 5e épisode, nous recevons Marie-Christine Girard. Elle est accompagnatrice du deuil en Dordogne. Son chemin de traverse, les secondes funérailles, un accompagnement pour aider les endeuillés qui, après la cérémonie d'adieu, gardent un goût d'insatisfaction, d'inachevé. Bonne écoute. Marie-Christine Girard, bonjour.
Bonjour Luc.
Je vous appelle Marie.
Oui.
Vous allez bien ?
Oui, je vais bien.
Avant de nous expliquer ce qu'est votre métier de célébrant funéraire, mais que vous appelez plutôt accompagnatrice du deuil, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du deuil ?
Alors, le deuil, en fait, c'est une perte douloureuse. Donc, dans ce cadre-là, c'est la perte douloureuse d'un proche, de quelqu'un qu'on aimait. Mais en fait, on pourrait élargir ça à toutes les pertes douloureuses.
Donc, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on peut perdre la santé, on peut perdre une relation dans laquelle on était vraiment très investi, on peut perdre une profession qu'on aimait. Enfin, vraiment, à chaque fois qu'on perd quelque chose auquel on était attaché et que c'est douloureux, il y a un deuil à faire.
C'est pour ça qu'on dit, voilà, faire le deuil de quelque chose,
voilà.
Pas forcément essentiellement la mort de quelqu'un.
Voilà, c'est vraiment quand une perte nous bouleverse et en fait nous met un peu dans une situation de vertige, de souffrance, et il faut reconstruire autrement.
Donc vous avez récemment suivi une formation au centre bouddhiste tibétain Dakpo sur l'accompagnement du deuil et une autre formation au métier de célébrant funéraire laïque avec la coopérative funéraire Cyprès située à Bordeaux. Vous êtes accompagnatrice du deuil, mais vous avez effectué cette formation au métier de célébrant funéraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et la différence avec ce que vous faites maintenant ?
Alors la formation de célébrant funéraire laïque, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, c'est dans l'idée d'intégrer un travail dans des pompes funèbres alternatives, c'est-à-dire que le métier des pompes funèbres est en train d'évoluer. Et en fait, on va de plus en plus vers la prise de conscience qu'une célébration prend aussi en compte tout un tas d'actes symboliques qui font sens. Et ce n'est pas juste de l'administratif. Alors moi, si cette formation m'a vraiment intéressée dans ce cadre-là, dans cet accompagnement, pour finalement, auprès des endeuillés, les aider à passer le cap. Après, dans la célébration de célébrants funéraires laïques, il y a toute la partie administrative qui est quand même assez lourde et qui fait partie de la société et qui m'intéresse moins. Donc voilà, c'est pour ça que j'évolue vers quelque chose d'un petit peu plus spécifique.
Tout d'abord, pourquoi vous êtes lancé dans ce métier ? Que faisiez-vous avant et qu'est-ce qui vous a amené à changer de voie vers ce métier-là ?
Alors moi, j'ai un parcours complexe. J'étais enseignante, en fait, la plupart du temps, on va résumer ça comme ça. Et en fait, ce qui m'a amenée dans cette voie-là, c'est le fait d'avoir personnellement perdu, en quelques années, beaucoup de proches. Le dernier en date étant mon compagnon, mais voilà, j'ai vraiment perdu beaucoup de gens. Et du coup, on ne s'en ressort pas indemne. Donc, je suis allée m'interroger sur ce que c'est que la mort et ce que c'est que la vie.
J'ai lu que vous aviez fait vous-même une cérémonie post-funéraire, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Mais en fait, ce qui s'est passé, donc ça c'était suite au décès de mon compagnon. Donc il y a eu une cérémonie au crématorium où effectivement on est intervenu, il y avait tout le choix des photos, des musiques, des textes. C'était vraiment très, bon, très intéressant. Et en même temps, je suis sortie de ça avec un sentiment d'insatisfaction, c'était pas suffisant. Et c'est vrai que dans ce qu'on propose dans les pompes funèbres, en fait, on a quelques jours pour se préparer. C'est très court, on est en état de choc, en état de sidération. Et une fois que ça s'est passé, alors ça peut être suffisant hein, pour certaines personnes, en tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Et j'ai vraiment eu besoin de prendre le temps de mettre en place une cérémonie où je pouvais dire... faire les gestes, etc., de tout un tas de choses que je n'avais pas eu le temps de faire à ce moment-là. Et ça a été la même chose pour des proches. C'est-à-dire que face à un deuil, on a besoin d'être ensemble. Et c'est vrai qu'au niveau des amis proches, il y avait ce même sentiment d'insatisfaction. Donc on a co-créé un genre de petite cérémonie qui permettait à chacun d'exprimer vraiment ce qu'il avait envie d'exprimer.
C'était pendant le Covid, la mort de votre mari?
Oui.
Peut-être que les décès qui ont intervenu pendant le Covid, les cérémonies ont été accélérées, peut-être plus réduites en effectif?
Alors là, non, ce n'était pas le cas. Mais je sais que, par contre, j'ai été en lien avec des personnes pour lesquelles ça a été ça. C'est-à-dire que où elles n'avaient pas pu être présentes, et là, ça a été terrible. Donc, il y avait vraiment un besoin de mettre en place une cérémonie d'adieu, quoi, qui n'avait pas eu lieu. Ou alors, ça avait été effectivement très rapide et il y avait ce sentiment d'insatisfaction. C'est vrai que la période Covid a été révélatrice de beaucoup de choses.
Et à quel moment vous êtes dit, c'est ça que je vais faire désormais, accompagner le deuil des gens?
Alors en fait, moi, dans mon deuil, parce que du coup, ça va me permettre d'en parler un petit peu, en fait, le processus de deuil, il y a vraiment cet état de choc où tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une absence qui sera là et qui est irrémédiable. Une grande interrogation du coup sur le sens de la vie. En fait, moi, j'ai personnellement tout réinterrogé. Et l'image qui m'est venue, c'est d'avoir été comme une marée descendante. C'est-à-dire que je décrochais de tout. Et ça a pris plus d'un an où effectivement tout perdait son sens. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du processus de deuil. C'est-à-dire qu'on peut, avoir des problèmes à se nourrir, des problèmes de sommeil, problème de sens, tout perd son goût d'une certaine façon. Et moi, j'ai vraiment senti que c'est tout refluait. Et je sentais à un moment donné que j'allais atteindre un point de marée basse, c'est l'image qui m'était venue, et qu'à partir de là, j'allais repartir autrement, mais je ne savais pas comment. Je me suis même demandé si je n'allais pas moi aussi mourir. Enfin, vraiment, alors, je n'étais pas suicidaire, hein, ce n'est pas du tout ça, mais il y a vraiment quelque chose sur le sens de la vie qui intervient. Et c'est ça qui m'a donné envie, quand j'ai commencé à remonter, de me dire j'ai vraiment envie de faire ça et d'accompagner ceux qui sont en train de traverser ça.
Donc, dans ce métier, dans la formation que vous avez suivie, on vous forme à repérer les choses qui peuvent manquer dans les cérémonies classiques.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui peut manquer dans les cérémonies classiques, justement?
Justement, parce que dans une cérémonie funéraire classique, il y a très peu de temps. Hein, on a quelques jours pour la faire. Et quand on vient de perdre quelqu'un, on est un peu en état de choc et de sidération. Donc, en fait, c'est presque du pilotage automatique. Et après ça, on se dit souvent, si j'avais su, j'ai oublié de dire ça, ou j'ai oublié de faire ça, ou j'aurais aimé plutôt mettre telle musique, ou j'aurais aimé faire tel geste. Et là, il y a des regrets, souvent. Alors ça, c'est la version soft, on va dire. Il peut aussi y avoir des sentiments de culpabilité beaucoup plus profonds quand la relation était parfois un peu nouée. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses. Alors ça apparaît aussi souvent quand une relation n'a pas été apaisée avant la mort de quelqu'un et qu'en fait, on se retrouve face à l'absence et on s'est dit, mais en fait, je ne me suis pas réconciliée ou je n'ai pas dit ce que j'avais à dire.
Ce qui est en mauvais terme.
Oui, par exemple. Hein, ouais. Et là, on peut se dire, c'est irrémédiable. Et on peut porter ce fardeau toute sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, à éviter. Et justement, c'est ces actes symboliques que je propose, c'est des façons de sortir de ces impasses et de réparer ce qui a été, entre guillemets, raté.
Juste avant d'en venir à ces secondes funérailles que vous appelez, vous êtes éloigné du chemin un peu classique lié au monde des pompes funèbres après la formation. Pourquoi? C'est au niveau, vous parliez de l'administratif tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons?
C'est-à-dire que dans cette formation, on voit très clairement qu'il y a à gérer la partie administrative, toute la partie aussi avec la mairie, avec les cimetières, avec les transports, enfin voilà. Et c'est vraiment assez complexe. Et moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et par mon vécu personnel, je me suis rendu compte que justement, sur le coup, on est un peu en urgence et en état de choc. Et c'est souvent après que des choses réémergent, plus profondes, et qui ont besoin, pour le coup, d'être réparées. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse, avec le temps qu'on peut se donner. Parce que, pour le coup, on a le temps. On peut prendre tout le temps dont on a besoin pour élaborer quelque chose.
Donc, vous avez développé ce que vous appelez les secondes funérailles. Qu'est-ce qui les différencie des premières?
Alors, justement, les premières funérailles, c'est quelques jours qu'on a pour mettre en place la cérémonie. Et une fois que c'est fait, quoi. Les secondes funérailles, ça répond à cette sensation d'insatisfaction ou de frustration parce que des choses ont manqué lors des funérailles classiques. Donc, c'est pas à chaque fois, hein, c'est vraiment. Mais quand ça intervient, c'est vraiment très important de se dire qu'on peut réparer ça, qu'on peut proposer des funérailles qui font sens et qui, du coup, permettent de dépasser le nœud ou le blocage auquel on est confronté.
C'est des funérailles toujours laïques, mais ça peut être adressé à des personnes qui ont effectué une cérémonie, par exemple, dans un lieu religieux.
Ah, tout à fait. C'est vraiment une réparation entre soi et la personne perdue. Donc ça peut tout à fait rentrer dans un cadre religieux si les personnes sont croyantes, mais la démarche n'est pas là.
Donc vous vous adressez à tout le monde?
Oui.
Et à quel moment de sa vie fait-on appel à un célébrant funéraire? Ça peut être, je ne sais pas, quelques jours après, quelques années après?
Voilà. À chaque fois qu'on sent qu'on est un peu dans une impasse, qu'on est coincé avec un deuil et qu'on n'arrive pas à se reconstruire, en fait.
Et alors, comment se déroule cette cérémonie, cette seconde cérémonie, en amont, pendant, jusqu'à quel point est-ce personnalisé?
Alors, c'est totalement personnalisé. En fait, ça se passe, il y a une rencontre avec la ou les personnes qui en éprouvent le besoin. Donc c'est un entretien, on voit ce qui s'est passé, quelle était la personne qui est morte, enfin qui est partie, hein, quel était son profil, quel lien aussi il y avait avec cette personne-là, et surtout où sont les manques, qu'est-ce qui manque dans les cérémonies qui se sont passées avant, et qu'est-ce qui est à réparer. Donc ça peut être des choses à dire, hein, la parole est vraiment très très importante, ça peut être des choses à dire, ça peut être évoquer des musiques, ça peut être des objets symboliques qu'on peut même fabriquer pour réparer des choses, ça peut être... Alors, ce qui est très important, c'est le choix du lieu, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un lieu qui fasse sens. Le choix de la date, ça peut être une date anniversaire ou une date qui fasse sens par rapport justement dans la relation. Les personnes qui vont être présentes, l'intention de ça. Et puis justement, ensemble, on va vraiment créer ces gestes symboliques, cette cérémonie. Donc ça peut être quand on fait ça, quel va être le parcours, comment on va faire, quel geste on va faire, quelles paroles on va dire.
Tout le rituel,
donc c'est vraiment aider à construire ça et à l'accompagner.
Justement, vous parlez du choix du lieu, est-ce que ça peut être, je ne sais pas, dans une forêt, dans une grotte,
c'est
toujours au bon vouloir de...
Ah, complètement, c'est vraiment un lieu qui fait sens pour la personne. Donc s'il y a eu des choses fortes qui se sont vécues dans une forêt, on peut vraiment faire ça dans une forêt, on peut faire ça... Oui, dans un lieu qui fait sens.
Vous avez par exemple, vous pouvez donner des exemples que vous avez.
Moi, j'ai beaucoup fait ça dans la nature. Bon, en Dordogne, il y a des lieux assez forts, Abri-sous-Roche. Ça peut être effectivement dans une grotte. Enfin, c'est vraiment ce qui fait sens dans la relation et tout est possible. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que ce qui est dans les secondes funérailles, on doit être totalement créatif. On doit se sentir... voilà. Après, effectivement, on ne transgresse pas les lois, mais l'idée, c'est d'être totalement créatif.
Vous, pendant ces secondes funérailles, comment est-ce que vous vous placez? À quoi vous servez, entre guillemets?
Alors, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, d'encadrement, qui rassure, qui aide à l'élaboration, qui aide à la construction, en fait, qui unifie. Hein. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de clivage, et donc c'est vraiment de prendre... toutes les propositions qui font sens et de construire quelque chose qui va être cohérent.
Oui, mais je veux dire, pendant les funérailles, vous êtes en retrait. Est-ce qu'on vous, si on vous demande de participer... Est-ce
que ça
vous...
dépend, justement. Je veux dire, je peux très bien être en retrait. Je peux aussi prendre la parole. Je peux aussi poser des actes. C'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins des personnes endeuillées.
Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Quand est-ce que vous dites non, ça je ne peux pas le faire?
Alors, quand ça n'est pas légal, hein, c'est-à-dire il y a des endroits où on ne peut pas faire des. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Il faut qu'il y ait un respect fondamental de tout. Enfin, vraiment, la base, c'est le respect de soi, des autres. Donc, c'est un peu du bon sens après.
Que se passe-t-il ensuite de ces funérailles? Est-ce qu'il peut y en avoir des troisièmes?
Bien sûr. En fait, à chaque fois, mais ça c'est dans la vie pour tout, hein, à chaque fois qu'on sent qu'on est bloqué, qu'on est dans une impasse par rapport à quelque chose de douloureux, on peut imaginer de faire un acte symbolique, mais même tout seul. Enfin, je veux dire, après ça peut devenir une habitude. Mais en fait, à chaque fois qu'on est coincé dans quelque chose, c'est important de prendre le recul et de se dire... qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ça?
D'une manière assez pragmatique, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rappelé pour vous remercier?
Oui, ça fonctionne. Alors, il y a juste une chose que je veux préciser. Quand les choses sont vraiment très, très douloureuses, il y a vraiment eu un accompagnement à un niveau thérapeutique, psychologique qui peut être nécessaire. Hein. Je veux dire, les secondes funérailles ne remplacent pas un accompagnement de cet ordre-là. Mais c'est vrai que ça fonctionne, ça libère. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à travers ces gestes symboliques et qui opère.
Et à votre avis, pourquoi est-ce que ça marche ?
Parce que c'est le fonctionnement de l'être humain. Je pense qu'on a tous expérimenté ça un niveau plus simple, quand on est en conflit avec quelqu'un, le fait de pouvoir aller lui parler ou lui écrire, on sent à quel point ça peut libérer les choses. Donc je pense que c'est vraiment le fonctionnement de l'être humain.
Parmi les gens que vous avez reçus, que vous avez aidés, quelle est la proportion de personnes qui ont perdu un être cher pendant le Covid ? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens au point de vous faire appel
à
vous ?
Oui. Alors c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je commence, donc on sort tout juste de la période du Covid, bien sûr, bien sûr. Mais pas que. Ça peut être récemment, par exemple, une personne qui est venue parce qu'elle a perdu son compagnon de façon brutale. Et du coup, sidération, état de choc. Et il y a eu une cérémonie à l'église, mais qui justement n'a pas été suffisante et donc qui a éprouvé ce besoin de compléter. Et il peut y en avoir d'autres, en fait. On peut en faire tout au long de sa vie.
Que tirez-vous de votre activité, de votre métier ?
À quel niveau ?
Au niveau de la satisfaction d'aider les autres, au niveau de, ouais. Je ne sais pas, d'un sens que vous cherchiez à ouais. votre vie.
Ben moi, c'est-à-dire que le fait d'être passé par là, et vraiment ce que je vous ai dit à plusieurs reprises en quelques années, je me suis vraiment rendu compte que la vie était précieuse et que moi, mon expérience fait que je connais le chemin d'une certaine façon et ça m'a vraiment donné envie d'aider les autres. Et ça me met en joie, en fait, quand je vois que quelqu'un se libère et retrouve, en fait, un goût de vie et de légèreté.
Comment est-ce qu'on peut vous contacter ou est-ce qu'on vous retrouve
Alors, pour le moment, c'est un peu tout nouveau. Donc, moi, je suis auto-entrepreneuse jusque-là. Là, avec quelques amis proches, justement, on est en train de travailler sur une association, la création d'une association, et qui permettrait, parce que... Peut-être que la base de tout ça, quand on a perdu quelqu'un, c'est de pouvoir parler. Et donc, d'avoir des cercles de parole, des endroits où on peut, en petit comité, une dizaine de personnes, échanger. C'est quelque chose de fondamental. Pour me connecter, le mieux, c'est peut-être de me contacter par mail. Donc, je peux vous donner l'adresse mail. Donc, c'est Marie, comme le prénom, le tiré du 6, easy, donc EYZIES@orange.fr. Ce que je voudrais dire, c'est que on est dans un monde où effectivement la mort, on n'en parle pas, on fait comme si on était éternel. Un jour, elle vient quand même nous confronter. Et surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est de ne pas rester coincé dans quelque chose qui nous paraît irrémédiable en se disant « mais là, j'ai fait une erreur et sans vouloir toute la vie ». Donc, il faut vraiment se libérer.
Merci Marie.
Avec plaisir.
Chemin de traverse. Pour réécouter le podcast, rendez-vous sur le site internet de RLP.